L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Le jeudi 17 février a eu lieu la deuxième édition de Gazette Africa, dont voici le troisième extrait. Il contient les échanges qui ont lieu suite à la présentation de la Cenozo par Arnaud Ouédraogo. Ce dernier était d'ailleurs présent dans la salle via Internet et la connexion était malheureusement instable, ce qui peut parfois rendre ses propos incomplets. Certaines questions ont dû être réenregistrées pour des raisons d'intelligibilité. Au milieu des échanges, nous ferons une courte pause avec un conte qui nous avait été conté par Irénée. Bonne écoute à tous.
Avez-vous des retours sur les enquêtes menées par les journalistes d'investigation de la cellule Norbert Zongo autour de l'affaire des Pandora Papers?
Alors justement, c'est l'une des questions que j'aurais aimé poser à Arnaud. Mais effectivement, ces enquêtes internationales comme les Panama Papers ou les Football Leaks, et les Leaks ou les Files ou les Papers dont on entend parler émanent souvent de consortiums internationaux de journalistes parce que c'est plus facile. C'est des données déjà, c'est des millions et des millions de documents. Donc à traiter, il faut quand même beaucoup de compétences. Et puis souvent, c'est des enquêtes transnationales, donc d'avoir des consortiums comme ça qui transcendent un peu les frontières, c'est beaucoup plus facile. Alors après, comme le disait Arnaud, l'enjeu c'est que c'est très compliqué, alors sa formule c'est chronophage, coûteux et difficile. Effectivement, c'est difficile pour un média de détacher un journaliste, par exemple là pendant 6 mois ou 1 an ou voire plus, sur une enquête et du coup qui va donner lieu juste à une publication d'une enquête de quelques pages, donc c'est vraiment essentiel d'avoir des réseaux comme la Cenozo là pour avoir des relais. Donc il y a au niveau mondial il y a l'ICIJ là le consortium international des journalistes dont beaucoup de médias font partie, dont Le Monde par exemple, Der Spiegel, le New York Times, etc. Mais aussi d'avoir des partenariats un petit peu plus locaux comme la Cenozo, et de toute façon ils travaillent souvent en bonne intelligence ensemble, donc voilà, comme ça leur permet d'avoir plus de poids, d'enquêter. Et en plus là j'ai regardé un petit peu les exemples, je vous invite à le faire d'ailleurs sur le site du Cenozo, il y a beaucoup d'exemples des enquêtes qu'ils ont menées et du coup c'est très intéressant à chaque fois, et ça malheureusement ça a peu de relais dans la presse grand public et ça reste dans certains médias, etc. Mais ça fait difficilement les gros titres. C'est aussi l'une des questions que j'aurais aimé lui poser pour savoir un peu les conséquences que ça peut avoir en termes politiques, en termes judiciaires aussi. Est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont menées? Arnaud, est-ce que tu nous entends? Ah mais on te voit en plus.
La dernière partie de ta question, j'ai pas été quand tu commençais à parler.
Alors attends, je repose. J'avais une question un peu plus terre à terre d'abord. Tu parles de financeurs internationaux pour la cellule de presse. Est-ce que tu peux nous dire un peu lesquels? Et puis aussi, est-ce que tu peux nous dire où sont publiés? En fait, il y a des systèmes de double publication, c'est ça? C'est publié, les enquêtes, elles sont publiées à la fois sur le site de la Cenozo et dans les médias partenaires, c'est ça?
Voilà. J'ai pas entendu toute la question, mais j'ai pu comprendre que ça va être publié la Cenozo et sur les médias partenaires. Exact. Dans les médias pour lesquels les journalistes abonnent et évidemment sur le site de la Cenozo.
Oui, donc c'est publié à la fois sur les sites des médias partenaires ou dans les publications, les magazines, les quotidiens et puis aussi sur le site de la Cenozo.
Exactement, c'est ça.
Je ne sais pas si vous avez des questions pour Arnaud du coup dans la salle.
Oui, bonjour. Je suis agréablement surpris par le Burkina Faso, parce que nous au Sénégal, bon, parfois on idéalise beaucoup de journalistes d'investigation comme Abdou Latif Koulibaly, je ne sais pas si vous le connaissez, on rejoint le parti au pouvoir.
Oui, je le connais.
C'est ça mon problème. Quel regard portez-vous vraiment sur le journalisme d'investigation au Sénégal? Parce que j'ai remarqué au Sénégal, beaucoup de patrons de presse, d'anciens journalistes de qualité, ont rejoint le parti au pouvoir. Quel regard portez-vous sur ce journalisme d'investigation? Merci.
Merci, cher frère. Je pense que la situation au Sénégal, est, pour moi, c'est la même presque partout en Afrique de l'Ouest. Il y a des journalistes qui ont la volonté de faire de l'investigation, qui ont les qualités et la moralité ici pour le faire. Mais il y a ceux aussi qui sont tentés d'abandonner l'investigation pour passer à autre chose. Parce que, comme vous le savez, dans nos pays, dans nos démocraties, ce ne sont pas ceux qui font du journalisme d'investigation, en fait, qui roulent sur l'or. Très souvent, connaissez l'économie de nos médias, pas évident de s'en sortir financièrement quand vous faites l'investigation, parce que les puissants, vu que vous dérangez très souvent, préfèrent vous couper les robinets de la publicité. Et ceci parce que, tout simplement, c'est les seules en fait, sources de revenus des médias. Donc, ce qui fait que certains bons journalistes, notamment Abdoul Latif Koulibaly que vous avez cité et d'autres, préfèrent parfois franchir le pas pour rejoindre la politique, même si quelqu'un a dit que les relations journalistes-politiciens, ce sont des relations incestueuses, certains sont allés au-delà. Mais quel regard je porte sur le journalisme d'investigation au Sénégal? Je dirais un bon regard parce que nous intervenons dans les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest à partir de Ouagadougou. Nous avons des membres au Sénégal et pas des moindres, notamment Amadou Tidiane Sy, directeur de EJICOM, qui est une école de journalisme, et qui est aussi directeur de publication de Westaf. Westaf, qui est un média en ligne très sérieux, qui ne fait pas dans la couverture de l'actualité pour couvrir l'actualité, qui ne fait pas dans le journalisme propos recueilleur, comme dirait quelqu'un ici, mais qui fait du vrai journalisme, qui fait de l'investigation. Donc, c'est une fierté, non seulement pour le Sénégal et aussi pour notre organisation. Il a été longtemps vice-président de la CNUSO et il vient d'être remplacé par un autre Sénégalais qui s'appelle Moumar Dian. Moumar Dian, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un journaliste d'investigation aussi, qui a longtemps vécu aussi en France avant de rentrer, depuis quelques années. Et actuellement, Moumar Dian, il est vice-président de CNUSO, chargé des questions d'investigation. Donc, je dirais que le Sénégal, c'est vrai, des choses sont faites au Burkina, au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire et tout, mais le Sénégal reste quand même un phare en matière de pratique de journalisme, en matière de pratique de journalisme d'investigation. Même si je reconnais que de plus en plus, certains anciens noms du journalisme d'investigation ne font plus office dans les rédactions et préfèrent aller monnayer leur talent ailleurs. Vous avez cité notamment Abdoul Latif Koulibaly. Mais depuis la création de la CNUSO, il y a cette nouvelle génération-là qui essaie, parce que aussi il y a une organisation derrière qui encourage et qui soutient.
Effectivement, et en plus, j'ajouterais juste que par exemple, le bureau ouest-africain de Reporters sans frontières est basé au Sénégal, donc à chaque fois, les dirigeants sont plutôt des Sénégalais, donc aussi, ça permet de donner une certaine lumière. Et puis aussi, je voudrais juste compléter ce qu'a dit Arnaud, on peut citer aussi Newton Ahmed Barry, par exemple, au Burkina Faso, qui était un journaliste d'enquête et qui, du coup, travaillait aussi avec Norbert Zongo et qui, la dernière dernièrement, il ne l'est plus maintenant, mais qui a été président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Donc on voit aussi que, effectivement, du fait de ces difficultés financières à faire de l'investigation, mais aussi dans le cas de Newton Ahmed Barry, j'imagine d'autres convictions et d'autres raisons, mais du coup, des journalistes ont tendance aussi à passer un petit peu de l'autre côté, côté politique.
C'est exactement ça. Moi, je pense que s'il faut étaler ça sur une échelle de 100, je dirais que 70% c'est pour des raisons pécuniaires. Après, tu as certaines personnes qui s'engagent en politique pour des raisons de militantisme, parce que certains journalistes, à la longue, se disent qu'ils sont impuissants par rapport à ce qu'ils font. Ils exposent des faits, ils dénoncent, il n'y a pas de changement. Ils se disent que ben, si peut-être je me retrouve à l'Assemblée ou dans un poste de décision politique, ben, je pourrais faire changer les choses. Malheureusement, quand ils s'y retrouvent, ils oublient pourquoi ils sont allés.
Je voulais savoir un peu ce que pensent les journalistes du footballeur qui est devenu homme politique, George Weah. Comment il est perçu par les journalistes?
Je dois dire que lorsqu'il a, il est accédé au pouvoir au Libéria, ça constituait de l'espoir pour d'abord la population libérienne et pour beaucoup de journalistes, parce qu'on s'était dit que c'est quelqu'un qui arrivait déjà désintéressé, parce que voilà, très souvent les hommes politiques africains, ils viennent en politique pour devenir riches. Lui, ce n'était pas déjà le cas, donc les gens avaient un peu d'espoir. Malheureusement, aujourd'hui, quand vous discutez avec les journalistes libériens avec lesquels nous travaillons, ils trouvent que Weah, c'est un très mauvais président. C'est un très mauvais président, notamment en matière de transparence, de gestion de la chose publique. Sous son mandat, voilà, la corruption a pion sur rue. Et aujourd'hui, je ne sais pas si la situation a changé au niveau des institutions internationales, de la place financière internationale. Je pense que le Libéria aujourd'hui n'a pas une bonne presse. Comme on le dit dans le milieu, la signature du Libéria ne passe plus parce que tout simplement, beaucoup de signaux sont passés de l'orange au rouge sous son mandat parce que ce n'est pas un bon élève, on dirait, en matière de bonne gouvernance. C'est malheureusement ainsi qu'il est présenté par les journalistes libériens et bien sûr ce qui ressort en fait de la couverture de l'actualité économico-politique de son pays. Bon, c'est pas un pourfendeur aussi de la liberté d'expression. Voilà, c'est ça aussi l'avantage. Mais il est présenté comme un mauvais président sur le plan de la gestion de la lutte contre la corruption.
Donc, si j'ai bien compris, il était meilleur footballeur que président.
Exactement. Exactement.
Vous me permettez deux petites remarques sur le débat qui vient de se faire. Quand on parlait de George Weah qui n'est pas aussi bon en foot, en direction politique en foot. Et là, en entendant mon neveu guinéen, j'ai pensé aussi à Alpha Condé. Il faut savoir qu'Alpha Condé, ça a été un grand dirigeant d'une association étudiante qui a beaucoup marqué les générations de jeunes, notamment d'Afrique francophone. Ça s'appelait la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Beaucoup de gens sont passés par là, qui ont leur formation idéologique. Et Alpha Condé, a été un leader incontesté. Et donc, quand on voit, il a été dans l'opposition pendant longtemps, bien sûr, exilé. Quand on voit ce qu'il a fait au pouvoir, c'est vraiment désolant pour l'image et tout ce qu'il a pu, sa formation et tout ce qu'il a... Ouais, comme on est un peu comme cocufié, quoi. Nous qui avons été des militants de cette association, même si moi je suis arrivé, c'est la FEANF a été un élément de formation des étudiants africains en France depuis les années 50, opposé, enfin bref. Donc je pense que ça a été une déception ce qu'il a fait en Guinée pour nous, pour beaucoup de gens ailleurs qu'en Guinée. Sur la question de la politique de Nombé Zongo, ce que je voulais dire, c'est que parle de l'investigation et le lien avec la politique. Il faut savoir que si le pouvoir de Blaise Compaoré, la première fois qu'il a vraiment tremblé, c'est avec l'assassinat de Nombé Zongo. Comme disait Marie-Claude, effectivement, tous les jours que... Chaque jour de parution de l'indépendant, les gens se précipitaient pour voir qu'est-ce qu'il avait qu'est-ce qu'il pouvait dire avec courage. Avec courage, il savait qu'il était menacé. Il savait, il le disait. Un jour, il le disait. Et donc, il a vraiment eu, comme en termes de prise de conscience des Burkinabés au niveau politique, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de similitudes avec Thomas Sankara. Hein. Donc, Nombé Zongo a été vraiment Et vous savez que l'affaire qui l'a fait tomber, c'est quand même s'il enquêtait sur l'assassinat de David Ouedraogo, chauffeur de celui qu'on appelait le petit président, c'est-à-dire le petit frère de Blaise Compaoré.
Mais peut-être, Arnaud, je me demandais, donc dans la vidéo, tu parles de journalisme de solution. Il y a aussi, on parle aussi pas mal de journalisme d'impact. Et du coup, est-ce que les enquêtes que vous avez menées sur tout un tas de sujets, tu m'avais cité quelques exemples, etc., est-ce qu'elles ont eu des suites? C'est-à-dire, est-ce que, à la fois au niveau politique, est-ce qu'il y a eu des conséquences sur les personnalités mises en cause? Par exemple, Patrick Hachi, le premier ministre ivoirien qui a été accusé d'avoir une entreprise du coup aux Bahamas. Est-ce qu'il y a des suites politiques, voire judiciaires dans les enquêtes que vous menez?
Thibault, tu connais très bien le paysage politique ou comment cela fonctionne en Afrique de l'Ouest. Et même si des choses vont se mettre en place, c'est souvent après que les dirigeants concernés ou les personnalités concernées ne sont plus au pouvoir que les choses arrivent en général. Tu verras mal une autorité africaine étant en place, inquiétée parce que son nom est cité dans la presse dans une mauvaise affaire. C'est très rare. Cela dit, c'est arrivé en 2018 lorsque nous avons réalisé notre première grosse enquête internationale. C'était les West Africa Leaks. Je disais dans la vidéo que nous avons pu réunir 15 journalistes ici de 13 pays pour sortir 11 histoires, si je ne me trompe pas. Et parmi ces histoires, il y avait une qui concernait en fait un maire puissant maire d'une commune d'Abidjan, c'est la commune de Marbury notamment, qui était engagé justement dans les histoires de flux financiers illicites.
Et du coup, victime de la censure, du coup, Zoom a préféré couper ce passage. On ne saura pas ce qui est arrivé au maire de Marbury.
Ce petit bug d'Internet nous a semblé être le bon moment pour faire une pause proposée par notre ami le compteur Irénée.
Avant de venir ici, il m'a dit, tu vas voir le public de FM+, etc. Ils sont fanats d'Afrique. Ah, ils savent tout, même quand ils n'ont pas été, ils sont incollables. Alors du coup, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous savez comment est apparu le premier chauve en Afrique? Chauve. Bon, Songda, il le sait, mais tu n'as pas le droit de répondre. Hein? Bon, c'est vrai qu'on aime bien le Sénégal parce qu'il n'y a jamais eu de coup d'État. Hein? Tu disais que vous êtes comme vous, hein? Ben oui, quand même. Ah, bon, on dit qu'on les idéalise, il y a des raisons quand même des fois. Hein? Il n'y a pas que Senghor l'académicien. Alors, je vous ai laissé le temps de réfléchir pour me trouver comment est apparu le premier chauve en Afrique. C'est Jacqueline qui dit ça. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Samba. Samba, quand il est né, il était petit, magnifique petit garçon. À 7 ans, oh, il était beau. Et on disait au village, oh, vous allez voir, plus tard, Samba va faire des ravages. Auprès de qui, Latifa? Tu ne sais pas auprès de qui va faire des ravages, non? Auprès des femmes. Heureusement que Martine est là. Hein. À 11 ans, oh, quel galopin, quel dynamique, sympa, mignon. Et à 18 ans, c'était le plus bel homme. Et à cet âge-là, certains de ses copains étaient mariés. Comment on dit chez nous? On dit promotionnaire. Ça existe au Sénégal, le mot promotionnaire? Promotionnaire, chez nous, au Burkina, c'est très important. Les gens avec qui vous avez fait la classe, l'armée, etc. Donc, certains de ses promotionnaires étaient mariés. Et les gens disaient, c'est pas possible. Samba qui est le plus beau. Comment se fait-il qu'il ne soit pas le premier à se marier? À 25 ans, tous ses promotionnaires étaient mariés, sauf lui. Il avait même commencé à avoir quelques cheveux blancs. À 30 ans, alors qu'il avait beaucoup de cheveux blancs et encore des cheveux noirs, il s'est décidé à se marier, Samba. Il a voulu rattraper le temps perdu. Il a pris deux épouses en même temps. Une qui avait 20 ans et l'autre qui avait 50 ans. Et à tour de rôle, les épouses partageaient sa chambre. Quand c'était le tour de la jeune de 20 ans, elle passait les nuits à arracher ses cheveux blancs afin qu'on ne dise pas au village qu'elle avait épousé un vieil homme. Et quand c'était le tour de la dame de 50 ans, elle arrachait les cheveux noirs pour qu'on ne dise pas qu'elle avait épousé un petit genou. Et au bout de 3 mois, Samba n'avait plus un seul cheveu sur la tête. Voilà comment est apparu le premier cheveu en Afrique. Merci.
Nous remercions le conteur Irénée pour ce moment et nous allons à présent reprendre les échanges.
Alors oui, c'est peut-être un lieu commun que je vais soulever et je vous prie de m'excuser, mais qu'est-ce que c'est qu'une presse indépendante? Il y a des journalistes qui sont assujettis, d'autres qui veulent faire un travail indépendant et on leur balance des fumigènes à la tête. Et donc voilà, je me pose la question.
Le classement Reporters sans frontières donc, est établi suivant une méthodologie qui est détaillée sur le site, mais ils prennent en compte deux paramètres. Alors il y a un grand questionnaire de plus de 85 questions qu'ils envoient à des personnes ressources, à plusieurs dizaines de personnes ressources dans les pays, donc que ce soit des sociologues directement, des journalistes, des universitaires, des observateurs, des médiateurs sociaux, etc. Et puis, donc ça, c'est un critère. Et après, l'autre critère, c'est aussi sur des critères plus objectifs que relaient Reporters sans frontières, c'est-à-dire des arrestations, des pressions, et plutôt un côté quantitatif. Donc, il y a ces deux indicateurs-là. Mais après, le site, dans le livre, en note de bas de page, mais les critères qui sont pris en compte, c'est le pluralisme, l'indépendance des médias, l'environnement et l'autocensure, le cadre légal, la transparence et la qualité des infrastructures soutenant la production de l'information. Donc c'est pour ça que, par exemple, la France, outre le fait qu'en 2016, elle était aussi derrière le Burkina parce que 2016-2015, ça portait sur l'effet qu'il y a eu en 2015. Donc forcément, avec l'attentat de Charlie Hebdo, quand il y a plusieurs journalistes, même s'ils sont caricaturistes, ils sont journalistes aussi, travaillent pour un organe de presse, se font liquider au milieu de leur rédaction, forcément, le classement du pays en termes de liberté de la presse décline. Mais en France, comme vous l'avez souligné, hein, effectivement, là on le voit bien avec la présidentielle, la mainmise des industriels et de 9 milliardaires qui possèdent 90% de la presse française. Et là, on les voit, ils sont interrogés au Sénat et on voit bien les liens incestueux qu'il y a et tous les conglomérats. Et puis même, ça se décline même au niveau local ici. On voit bien Midi Libre qui appartient au groupe à la famille Bailey et qui est un très grand groupe. Après, il y a un autre conglomérat aussi plus local. radical avec la Gazette, la lettre M. Donc il y a aussi une tendance à la concentration effectivement des médias. Et puis aussi pour en être un petit peu victime de plein fouet aussi, c'est que le secteur de la presse en France est un secteur qui est économiquement en crise. Pour ne citer qu'un chiffre, ces 10 dernières années, la presse en tant que secteur économique a perdu 37% de ses revenus. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment des secteurs économiques pour lesquels c'est comparable, mais ça même, ces chiffres-là datent d'avant la pandémie. Et là, depuis, c'est encore pire parce qu'il y a des journaux qui n'ont pas pu être diffusés, etc. Et donc, c'est vraiment très, très, très compliqué au niveau économique. Et le corollaire, c'est que aussi, depuis 2009, il y a 10% des journalistes qui ont quitté la profession. Donc c'est aussi très important. Effectivement, mais on a tendance à idéaliser et on s'en rend pas forcément compte. Et même, y compris mes camarades de l'école de journalisme de Sciences Po n'étaient pas forcément au courant que la France avait un si mauvais classement et même de cette concentration des médias, ne savaient pas forcément à qui appartenait le média pour lequel ils travaillaient. Et c'est vrai qu'en 2 ans de master spécialisé dans l'une des 14 écoles reconnues par la profession, on n'a jamais eu de cours. On avait un cours d'économie des médias qui nous expliquait beaucoup de choses, hein, mais comment avoir un modèle économique pérenne, etc., mais qui ne nous expliquait pas cette concentration et les limites que ça peut induire. Donc, après, il y a d'autres limites en Afrique de l'Ouest, hein, et ailleurs dans le monde, mais effectivement, il faut relativiser.
Oui. Je voulais savoir, le principal vecteur de l'information en Afrique de l'Ouest, bon, en Afrique je suppose aussi, si c'est la presse écrite, si c'est les réseaux sociaux, si c'est la télévision, si c'est la radio, et après, s'il y a des organismes de grande diffusion, comme la télévision en France par exemple, si c'est une télévision d'État, et si la censure s'exerce, et par quel canal vous arrivez à diffuser ces articles, ces enquêtes d'investigation, du coup.
Arnaud apparemment n'est pas là, donc je vais répondre. Du coup, c'est un petit peu comme je vous répondrai, c'est un petit peu comme ici. En fait, chaque canal s'adresse aussi à une population un peu différente. Donc, les jeunes évidemment sont beaucoup sur leur téléphone portable, donc vont être beaucoup sur les réseaux sociaux et puis les médias en ligne. Donc, il y en a quand même beaucoup en Afrique de l'Ouest. Alors, pour le Burkina que je connais mieux, du coup, il y a beaucoup de sites en ligne d'informations, donc le Faso.net, Burkina 24, plein de sites, même beaucoup sur les réseaux, etc. Après, il y a aussi alors des quotidiens qui sont très installés, comme l'Observateur Palga, qui était le pionnier, mais après, il y en a deux autres principaux. C'est Le Pays, qui appartient à la presse privée aussi, et qui est un petit peu dans la même veine, avec un tirage moindre et une histoire moins importante, mais il y a une certaine pluralité à ce niveau-là. Il y a aussi Sidoya, qui est le journal d'État, donc avec les limites que ça peut impliquer. Mais après, il y a beaucoup de radios aussi. Et les radios, en fait, elles touchent un public différent parce que là, elles vont être beaucoup en langue locale. Donc ça va être des radios plus locales. Alors que les médias nationaux, effectivement, le français est la seule langue officielle au Burkina. Et comme dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, parce que c'est beaucoup des mosaïques ethniques au Burkina. Par exemple, il y a 61 ethnies sur un territoire qui fait la moitié de la France métropolitaine en superficie. Donc, autant de dialectes, voire plus. Et donc, à chaque fois, comme aussi... donc, le français est la langue de l'administration, de l'école et des médias, de la plupart des médias nationaux, surtout écrits. Mais il faut savoir aussi qu'il y a quand même 70% de la population adulte qui est analphabète. Donc les médias écrits, elles n'y ont pas accès. Donc l'Observateur Palga est diffusé, mais principalement dans les villes. Et de toute façon, il faut le lire pour pouvoir le comprendre. Donc après, les médias, les radios locales vont pouvoir toucher beaucoup plus largement. Voilà. Et après, il y a aussi des chaînes de télé. Il y en a de plus en plus. Alors, il y a la RTB, la télé publique, et qui est quand même assez... qui relaie beaucoup la voix de l'État, la voix officielle. Et là, notamment, le coup d'État, il a été annoncé sur les ondes de la radio-télé du Burkina. Et après, avec les militaires qui prennent possession du coup du plateau du journal télé. Mais il y a aussi des médias, il y a aussi beaucoup de chaînes de télé privées. Alors avec des intérêts qui sont soit économiques, soit parfois des intérêts religieux. Il y a des chaînes notamment évangéliques, etc. Donc voilà, mais en fait, les médias sont écoutés par des franges différentes de la population. Et je sais que dans d'autres pays, notamment au Bénin et au Togo, qui sont, on a vu tout à l'heure, pas forcément dans le haut du classement de la liberté de la presse en Afrique de l'Ouest, il y a quand même une profusion de médias, mais qui ne va pas forcément vers un pluralisme de l'information. En fait, beaucoup relaient un petit peu la même chose, etc. Je sais qu'au Sénégal aussi, je parle sous contrôle de monsieur, mais il y a beaucoup de médias aussi qui relaient, qui font beaucoup de copier-coller, qui aussi piratent beaucoup d'articles. J'ai travaillé un petit peu à Jeune Afrique aussi. Souvent, on épinglait des médias sénégalais qui faisaient des copier-coller de nos articles en mettant juste, en changeant la signature et en mettant comme si c'était eux qui l'avaient produit. Donc, ce qui pose quand même certains problèmes. Mais voilà, donc là, bah, effectivement, la population étant de fait très jeune, dans la plupart des pays ouest-africains, du coup ça va être une consommation plus en ligne et sur les réseaux, et c'est pour ça que la lutte d'influence aussi elle se joue beaucoup sur ce terrain entre les grandes puissances, entre la France, la Russie et d'autres, hein, la Chine, la Turquie, ça va beaucoup se jouer donc sur Facebook, Twitter, mais aussi sur WhatsApp ou Telegram, et beaucoup de messages qui vont être relayés via ces réseaux, ces messageries, et du coup qui vont énormément circuler. Et après, bah, ça s'auto-entretient et ça se répand très vite. C'est des nouvelles assez virales.
Vous venez d'entendre le troisième extrait de la deuxième édition de Gazette Africa, enregistré le 17 février à la Gazette Café. Rendez-vous mardi prochain pour le dernier épisode.
L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.